Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans Valley Hoop, le podcast francophone consacré aux Phoenix Suns. On se retrouve pour en ce temps de vacances, de presque vacances, on va dire, pour les Suns qui viennent de jouer les Detroit Pistons et qui vont donc avoir quelques jours de repos pendant l'All-Star Game. Alors, pas tous les Suns, puisque on le sait, les Suns sont deux All-Stars. Hein. C'est maintenant devenu un gimmick qui fonctionne bien. Donc cette année, c'est Kevin Durant et Devin Booker qui ont été sélectionnés et qui vont donc aller à Indianapolis pour le match des étoiles. Hein. Nous, on va regarder tout ça de très loin. Et par contre, ça nous donne l'occasion dans Valley Hoop de nous poser un peu pour faire le bilan là, de cette grosse première partie de saison jusqu'au All-Star Break. 52 ou 53 matchs, je vais vérifier ça avant de vous dire n'importe quoi. Et je vais surtout accueillir notre unique copain du jour dans Valley Hoop, puisque Greg a un empêchement malheureusement. On le retrouvera très bientôt, Greg, dans Valley Hoop. Et là, aujourd'hui, avec moi, il y a donc Hicham. Bonjour Hicham, on se retrouve un peu comme à l'ancienne, tous les deux, dans Valley Hoop. Comment ça va, Hicham?
À l'ancienne, bah ça va très bien. Un petit coucou à Greg, petite dédicace à Alex aussi. Deux All-Stars, deux. Et oui. Et ouais,
C'est
ça
une
c'est
réalité.
beau, c'est beau. Et ouais, tout à fait, tout à fait. Alors je préviens, je sais pas si à un moment on en discute ou pas, mais même si on a prévu de faire autre chose dans ce pod, mais j'ai pas eu le temps de regarder le match qu'il y a eu hier.
Eh ben écoute, on est
Malheureusement.
tout en ce cas-là. Contre les
Ah
Pistons,
oui.
ouais, non plus,
Ah
pour
oui.
l'instant, voilà, on est dans ce cas-là. Alors, pour être tout à fait honnête avec nos auditeurs, on va enregistrer ce podcast en deux parties. Et donc, du coup, peut-être que d'ici la deuxième partie, on aura vu le match contre Détroit, enfin, d'ici l'enregistrement de la deuxième partie. Mais c'est vrai que, ni toi ni moi, mais en fait, l'idée, hein, on va un peu présenter les choses dans cette émission, ça va être vraiment de faire un bilan général. Donc, finalement, c'est pas un match qui va changer l'avis qu'on peut avoir sur les joueurs, puisqu'en fait, l'idée, au-delà donc, de ce, enfin, dans le cadre de ce bilan un peu général, donc 55 matchs, hein, je viens de voir Phoenix a joué pour l'instant cette saison. Donc sur ces 55 premiers matchs, l'idée c'est de faire un bilan joueur par joueur. Hein, c'est vraiment ça qu'on a décidé de faire dans Valley Hoop. Donc dans cette première partie, dans une première partie, on va déjà s'atteler à tout le front de court, on va dire. Donc principalement les bigs de l'équipe, dont Kevin Durant, puisque selon notamment le site de stats Cleaning the Glass, il est catalogué
Ah ouais, il est
comme un big
grand.
cette saison.
Ouais.
Oui, mais c'est surtout parce qu'il joue 4 ou 5. Quasiment sur toutes les possessions, je pense que c'est comme ça qu'il le calcule. C'est un peu bizarre, mais bon, bref, ça on va le voir, ça implique certaines choses par rapport à son positionnement, par rapport à ses paires NBA. Mais c'est pas le plus important. Le plus important, c'est qu'effectivement, on va pouvoir se poser un peu sur le cas de chaque joueur là, notamment les joueurs les plus importants de l'effectif, et essayer un peu de tirer des bilans de ce qu'on a vu depuis le début de saison, bien sûr en fonction des attentes qu'on avait avant la saison. Hein, c'est tout ça qui va être un peu revu là au tamis de ces 55 premiers matchs, même si aucun joueur n'a joué 55 matchs pour Phoenix cette saison, il y a eu quelques absences. Hicham, on va pas perdre plus de temps que ça après cette longue intro. On va se lancer après le générique dans ce bilan de premier bilan, on va dire, de la saison de Phoenix au All-Star Break. C'est parti tout de suite dans Valley Hoop.
Hey, let's go.
Back with the Remus. These boys are my sons like Phoenix. My city.
See the shots that I took, wet like I'm booked.
Raising up, deep three on the way. Oh, Durant goes, boom!
That is just, oh.
Sun came out, I went about to drop top.
On est donc dans Valley Hoop, et alors pour être vraiment transparent totalement avec nos auditeurs, on vient d'avoir une petite discussion là avec Hicham pendant la pause du générique, et on s'est mis d'accord sur le fait de finalement faire ça en deux parties, réellement, donc deux podcasts, non pas un podcast de bilan, mais deux podcasts de bilan, donc la première partie qui sera sur le front de court, qu'on va dès à présent développer, et donc une deuxième partie que vous aurez dans les prochains jours forcément, qui sera consacrée au back court et également un petit peu au coaching staff, hein. On va juger un peu le travail de Frank Vogel et de ses assistants sur le début de saison, mais on n'en est pas encore là. Donc aujourd'hui, on va surtout s'intéresser au front court qui a eu un rôle assez important, hein, forcément, dans les résultats des Suns cette saison. On savait qu'il y avait beaucoup de choses qui allaient se passer de ce côté-là. Hein. Il y avait eu pas mal de changements, hein, puisque seul Kevin Durant de ce côté-là du terrain était était déjà là l'année dernière. Mais KD, bah, on le sait, est arrivé en cours de saison en février. Il avait joué que 8 matchs de saison régulière l'année dernière. Donc voilà, c'était tout à construire, on va dire, du côté du front court. Et on a vu bah, des choses, on va dire, contrastées au fil de la saison et selon les joueurs. On va donc passer joueur par joueur. Et Hicham, on va commencer sur un premier joueur. Alors, pour présenter un peu le principe aux auditeurs, c'est vrai qu'on n'est pas allé dans le détail. Dans le détail, on va noter chaque joueur. Ce sera une base pour discuter de lui en particulier. Donc, noter chaque joueur sur bah, ce qu'on appelle chez nous, chez Valley Hoop, l'échelle de Nash. Donc, c'est une échelle de 1 à 13, hein, comme le numéro de maillot de Steve Nash, pour permettre bah, justement voilà, d'avoir une base un peu de notation, savoir où on en est et discuter à partir de là. Donc, je vais te laisser commencer, Hicham, sur le premier joueur qu'on va aborder aujourd'hui, qui sera, je l'ai décidé, Yusuf Nurkić. Quelle note tu as décidé d'attribuer à Yusuf Nurkić sur 13 et pourquoi? Je te laisse la parole et après je vais donner mon avis sur la question.
Ok, donc on part direct sur la note, ça marche. Ouais. Juste pour être sûr, parce que la dernière fois que vous avez fait cet exercice avec Greg, au niveau des échelles de notation, ouais. Je veux dire, quand tu mets plus de 10 sur 13 à un joueur, c'est que vraiment il a été bien au-dessus des attentes et qu'il a été très très bon dans l'absolu, c'est ça?
Genre, ça commence à être
qu'à partir du niveau 11-12, t'es au NBA, quoi.
En fait, ça permet de... Enfin, moi, j'aime bien, en fait, parce que c'est vrai que c'est, bah, c'est pas aussi large que sur 20, où voilà, t'as beaucoup de... Voilà. Mais c'est un petit peu plus nuancé, je pense, que sur 10. Effectivement, je pense que tu peux avoir cette dimension-là. Au-dessus de 10, on est vraiment sur un joueur qui a performé, comme tu le dis, soit vraiment au niveau des attentes, mais là, c'est pour les stars, et ou au-dessus des attentes, effectivement, pour les joueurs un peu plus de complément. Donc oui, c'est plutôt ça. Donc avec une moyenne donc entre 6 et 7. Donc effectivement, tu es soit au-dessus, soit en dessous de la moyenne, si tu décides d'être plutôt de cette double-là. Je t'en prie.
Ok. Et ben, pour commencer avec la note, moi, Yusuf Nurkić, il n'y a pas des ennemis, hein, on est d'accord. On
va non, bah, c'est dans la mesure du possible. Après, si c'est vraiment impossible pour toi de trancher.
Ouais. Non, mais juste, j'avais du mal à trancher entre un 8 et un 9 pour Nurkić.
Ouais, c'est intéressant, j'étais pareil hein, au début. Donc vas-y, dis-moi.
Ouais, bon, je vais lui donner 9, allez. Pour le côté, il se tape aussi sur Twitter pour défendre des copains et puis pour remettre certaines personnes à leur place. Donc, pour tout le côté, à la fois sur le basket, le terrain et puis les petits à côté et le personnage que j'aime bien. Donc, c'est quelqu'un que voilà, je pensais pas autant aimer cette saison. Lorsque le trade a eu lieu pour DeAndre Ayton, hein, on rappelle Nurkić avec Grayson Allen, Nassir Little, Keon Johnson qui a disparu de la rotation début de saison pour des bonnes raisons.
Et de la NBA.
Et de la NBA, ouais, tout simplement. Bon, il n'y a pas trop de niveau. Bon, très jeune, hein, on lui souhaite bonne chance, mais voilà. Contre DeAndre Ayton, et puis on s'était dit à l'époque, hein, tu te rappelles, Rod, ce trade, la merde, on a accepté finalement sous la contrainte. De prendre un package qui, bon, on sait pas trop. Enfin, si, à l'époque, on se disait, on sait, c'est pas terrible. Mais en fait, on savait rien. Parce que il s'avère que, à mon sens, sur ce qu'on voit depuis le début de saison, je suis pas loin de penser qu'on a gagné le trade au final. Parce qu'on récupère plusieurs joueurs, dont deux qui sont quand même dans 5 de départ et qui performent. Hein, Yusuf Nurkić et Grayson Allen. Donc, alors que Ayton. Voilà, pas une saison non plus flamboyante, et puis longtemps blessé aussi. Alors que Nurkić et Allen, quand même, sont présents la quasi-totalité des matchs. Donc ça aussi, c'est la première des aptitudes, comme on dit. C'est la disponibilité, et Nurkić a été disponible. Sur le terrain, il montre des belles dispositions, en attaque surtout, mais en défense, il n'est pas complètement ridicule non plus. Alors, que ça soit au rebond... dans sa capacité parfois à faire des hard edge, ce qui m'étonne personnellement. Je me dis, c'est une carcasse un peu dure à déplacer, celle de Yusuf, mais finalement, il arrive à faire parfois quelques bonnes prises à deux, comme ça, sur le porteur du ballon, sur pick and roll, en drop coverage. Bon, il fait ce qu'il peut, il manque de qualité athlétique et de capacité à vraiment défendre le cercle très haut, hein, on connaît ses limitations. C'est un peu sur le même moule que des Jokic et compagnie. Ça saute difficilement au-dessus d'une feuille de papier. Donc, c'est pas des mecs avec qui tu demandes de faire 2-3 comptes dans un match. C'est rare. C'est plutôt des gars qui vont être dans le positionnement, dans les kilos, et qui le font plutôt bien. Donc, Pour moi, Yusuf Nurkic, donc une satisfaction, et à partir du moment où c'est une satisfaction qu'il est au moins dans ce que je pouvais en espérer en début de saison, je le positionne au moins à la moyenne. Et comme, à mon sens, il a été un petit peu au-dessus de ses attentes, de mes attentes en tout cas initiales, et quand même, on a quelqu'un qui performe, si je dis pas de bêtises, en gros, sur la saison, ça tourne à du 12 points, 10 rebonds, presque 4 passes, et voilà, comme on dit, les stocks, hein, les steals plus blocks, pareil, j'ai pas vérifié, mais je crois que c'est plus d'1,5 par match, donc c'est pas ridicule, hein, au moins de 30 minutes par match. Donc statistiquement, il passe l'épreuve pour moi, et au niveau de l'alchimie avec les coéquipiers, avec KD, avec Booker et tous les autres, voilà, un bon élément, un bon joueur de locker room. Donc ouais, si t'as envie que je développe un aspect particulier, tu me le dis, mais moi, globalement, pour moi, ça sera un 9 généreux.
Bien argumenté. Et bah déjà, effectivement, on va trouver un point de un point de convergence, dès le premier joueur. Ouais, j'ai mis 9 aussi, j'hésite comme toi, hein, vraiment, j'hésitais entre 8 et 9, et puis c'est, je pense comme toi, vraiment le côté excellent coéquipier qui a fait valeur ajoutée vraiment dans le vestiaire, qui a fait un petit peu pencher la balance du côté du 9. Je suis complètement d'accord avec tout ce que tu as dit. Enfin, moi, c'est vraiment, il y a plusieurs surprises, hein, dans ce qu'a porté Nurkic au Sun cette saison. Il y a aussi des choses qu'on attendait et qu'on a eues. On va dire le fait que on savait que il avait du poids au rebond, qu'il était capable de faire des gros écrans et tout, mais que ce serait difficile défensivement, quelles que soient les couvertures, parce que il y a un manque de mobilité et il y a un côté un peu pâteau. Mais comme tu l'as dit, c'est quand même un petit peu mieux qu'attendu sur ce côté-là. Sur le côté offensif, c'est pareil, il y avait des trucs où on s'attendait à ce que ce soit compliqué sur la réussite au tir. On savait que c'était pas vraiment sa qualité principale. On savait que il y avait beaucoup de qualité à la passe, à la connexion, et ça on l'a vu très très vite, hein, dans le jeu des Suns. On voit que c'est vraiment très très important dans tout notre dispositif d'attaque. Ça l'est devenu très rapidement, hein, et ça s'est installé, ça s'est confirmé. Donc ouais, non, vraiment tout ce côté là on va dire sur le côté joueur, sur le terrain, c'est un petit peu mieux, moi, que ce que j'attendais, mais c'est conforme, on va dire, globalement à ce que j'attendais. En revanche, moi, c'est vraiment là où il me surprend en bien, on va dire, et c'est peut-être le côté, on va y venir après, mais enfin, c'est une bonne nouvelle vu son importance, mais je veux dire, ce qui me surprend vraiment le plus peut-être dans sa saison, c'est le fait qu'il ait autant joué. En fait, c'est le plus gros total de matchs joués cette saison par un joueur des Phoenix Suns, tout simplement, hein, 52 sur 55 possibles pour l'instant. Donc c'est énorme. En fait, il a tout simplement, là, cette saison, au All-Star Break, il a joué autant de matchs cette saison que la saison dernière en entier avec Portland, où il avait joué 52 matchs. Donc c'est vraiment, on avait des gros doutes, hein, sur son physique. On savait qu'il n'avait pas fait de saison à plus de 60 matchs depuis sa grave blessure en 2019. Et pourtant, on a vu, c'est ça qui est assez incroyable, on a vu ce joueur cette saison avoir vraiment un très bon niveau physique, arriver match après match à enchaîner les performances, à être un peu toujours au même niveau, quoi. Il n'y a pas eu de pépin, ou très peu. Il y a eu ce côté, ce petit truc au pouce là, mais qui lui a fait juste manquer un match. Les deux autres matchs qu'il a manqué, c'est pour des raisons personnelles. Il avait perdu son oncle, qui était quelqu'un de très important pour lui, donc quelque chose qu'on comprend. Mais en fait, c'est ça qui est aussi fou et frappant dans le début de saison de Yusuf Nurkić, c'est à quel point on est à la rue dans les matchs où il n'a pas été là. Je crois qu'on a quand même gagné le troisième match, je sais pas, je vais vérifier ça tout de suite pour pas vous dire de bêtises, mais on avait largement perdu les deux matchs où il n'était pas là. Non, c'est ça, c'est trois défaites larges, hein, contre Orlando aussi, c'est ça, le troisième match avec sa blessure, où c'était en lendemain de back-to-back effectivement contre Indiana, donc ça peut expliquer aussi la difficulté. Mais en fait, en gros, il manque 3 matchs cette saison, défaite de 15 points à Sacramento, défaite de 14 points à domicile contre Dallas le Christmas Day, et défaite de 15 points à Orlando. Donc effectivement, ce côté-là, quand il est pas là, on a juste pas une chance, quoi. En plus, c'était trois bonnes équipes en face, donc on voit bien son importance. Il a apporté, cette présence physique, ce qui basket, mais il y a vraiment quelque chose de plus. Il y a cet investissement dans l'état d'esprit et dans le côté, comme tu dis, le joueur de vestiaire, à ce niveau-là, il est vraiment très très bon. C'est un des liants majeurs de l'équipe. Après, pour moi, Ayton avait déjà un peu cette qualité-là. C'est bizarre à dire, alors qu'on sait qu'il a eu des embrouilles dans le vestiaire, mais c'était quand même un glue guy un peu sur le banc, qui allait encourager ses joueurs, qui allait saucer les mecs qui faisaient des dunks, qui était là à faire le combat. Alors, on parle vraiment de la grande époque là pour le coup, avec Mikal et tout le monde et Campaign avant les matchs. Quand ça dansait et tout. Donc, je veux dire, le côté ambianceur, on va dire, c'est pas le jour et la nuit pour moi par rapport à Ayton. Mais en fait, c'est tout aussi bien, voire un peu mieux, parce qu'effectivement, il y a un côté, il est un peu sur tous les fronts. Il est, comme tu le dis, très présent sur Twitter pour mordre les chevilles de ceux qui trashent les Suns et tout machin. Donc, c'est assez marrant. Et effectivement, globalement. Ouais, c'est ça, tu vois, donc il y a vraiment ce côté-là, mais même, enfin voilà, il y a cette importance-là hors terrain, il y a le fait qu'il est présent, plus peut-être qu'attendu, donc tout ça c'est vraiment des très bons côtés, mais il y a vraiment le facteur le plus déterminant là aujourd'hui dans la place qu'il a pris, et peut-être dans la note générale, pour le coup qu'on ait atteint le 8 surtout, c'est l'importance énorme qu'il a dans notre jeu, en fait, dans toutes les stats un peu avancées d'impact... d'impact individuel dans le collectif, donc les plus-minus, ces choses-là, c'est un des meilleurs joueurs des Suns, hein, tout simplement. Il a le meilleur plus-minus de l'équipe en cumulé, je crois que c'est toujours le cas. Là, j'ai pas vérifié après le match de Détroit, mais c'était le cas avant. Il a les stats de net rating.
Il a le deuxième derrière Book pour NBA.com après tout le calcul.
En cumulé pas en cumulé,
en
par match, ouais. Par match, il est derrière Book. Et derrière Book, on en parlera demain, mais qui fait des choses qui sont peut-être un peu sous-cotées. Mais Nurkic, effectivement, a cette importance-là. Comme il a plus joué que Booker, tout simplement, effectivement, en cumulé, il est au-dessus au niveau du plus-minus. Au niveau des net rating et des defensive rating, offensive rating individuel, c'est les stats qui elles valent ce qu'elles valent. Hein, ça reste limité dans l'impact. Mais c'est quand même bizarrement le meilleur des titulaires sur le defensive rating individuel, on va dire. Au niveau du net rating individuel, c'est aussi le meilleur de l'équipe. Donc il y a vraiment un apport très très important dans tout ce qu'essaye de faire Phoenix cette saison. Et en fait, sans lui, ce serait très très compliqué. Alors évidemment, sans lui, on aurait sans doute un autre intérieur et d'autres choses à exprimer. Mais en fait, tout ce qu'il a apporté au Suns cette saison, pour moi, va dans le positif, malgré ses soucis, et encore, même ses soucis, il est en train de les arranger. Alors, il y a le côté, comme tu disais, en défense, on ne peut pas refaire le monde sur un joueur qui, de toute façon, par ses qualités physiques, par son manque de mobilité, d'une manière générale et latéralement encore plus, par le fait que, en plus, il y a eu ces graves blessures qui fait que, il est plus du tout au maximum de son potentiel physique. Donc, bref, il y a ces éléments-là qui sont un peu... sur lesquels on peut pas espérer vraiment d'amélioration, parce que c'est consubstantiel, on va dire, à Yusuf Nurkic, à qui il est en tant que joueur aujourd'hui. En revanche, sur la réussite au tir, moi je note vraiment une très 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 belle amélioration depuis son absence, là, ces deux matchs d'absence à Noël pour raison personnelle. C'était vraiment très très dur, hein, avant Noël pour lui, hein, vraiment il avait vraiment du mal à marquer. Il y avait des
séquences.
C'est ça. Il est à 46%. Il est à 46,4% au tir, donc sur toute la période avant Noël, avec des pourcentages vraiment très tristes, en fait, dans la restricted area. Donc vraiment sous le panier, il était seulement à 55,9%. Pour un pivot de 2m10, c'est vraiment pas bon du tout. À 46,5% dans la peinture, donc hors restricted area, mais proche du cercle quand même. Donc vraiment pas des bons pourcentages. Mais depuis Noël, il y a vraiment une amélioration à ce niveau-là. Il est à 58,8% au tir. Donc depuis Noël, il y a un bond de plus de 12 points de pourcentage avant Noël et après Noël. C'est monstrueux. Et notamment parce qu'effectivement, il arrive enfin à mettre ses lay-ups et ses... Et c'est pas une blank, on va dire, ces petits flotteurs, petits hooks dans la restricted area, dans la peinture, pardon. Donc dans la restricted area, justement, pour tout ce qui est layup et dunk, il est maintenant à 67,2%. Enfin, donc sur la période, on va dire, depuis Noël, il est à 67,2%. Et il est à 52,8% d'une manière générale dans la peinture. Donc on voit que même de ce côté-là, comme il y a eu peut-être une prise de confiance aussi de son côté, ou peut-être un petit cran de sérieux en plus dans l'entraînement, dans tout, dans, dans, l'attaque même du panier en elle-même. Pour moi, vraiment, il progresse aussi de ce côté-là. Alors, désolé, ce premier passage sur Youssouf Tourkic, c'est très long, mais il y a vraiment beaucoup de choses à dire. Moi, mon 9, il est aussi justifié par ça. On a un joueur qui, au fur et à mesure de la saison, ne perd pas en utilité, gagne en utilité. Et peut-être on va finir cette question. Je vais te poser cette question-là, Hicham, pour finir sur Youssouf Tourkic. Moi, personnellement, j'ai toujours, là, au jour d'aujourd'hui, de gros doutes sur son utilisation en play-off. Je ne sais pas à quel point on va pouvoir l'utiliser en play-off. Et ça peut être un problème. Alors, on en parlera après. On a fait des recrutements dernièrement qui peuvent aider à résoudre ce problème-là. Mais pour moi, ce problème-là qu'on avait identifié en début de saison, c'est-à-dire que c'est un joueur qui va être facilement mis sur une île, mis en difficulté dans des configurations de play-off. Pour moi, c'est toujours un peu d'actualité. Enfin, en fait, c'est quelque chose qui m'inquiète un peu. Qu'est-ce que t'en penses, toi ? Est-ce que tu penses que Youssouf Tourkic va pouvoir jouer un rôle important en play-off, ou est-ce que justement les adversaires vont chercher à le sortir et réussir à le sortir facilement ?
Ouais, c'est un vrai sujet. Je pense que oui, il y a pas mal d'équipes qui, si elles mettent l'accent sur lui, vont réussir à éventuellement le sortir de la rotation sur pas mal de séquences en play-off. Ça nécessite en fait déjà une chose, c'est que si tu le joues face à une équipe qui le cible pour des duels en un contre un ou sur des phases de pick and roll, idéalement il faudrait qu'il y ait un joueur derrière qui soit capable d'assurer la rotation défensive dans la raquette et d'être un minimum dissuasif au cercle. Alors ce joueur-là, pendant tous les mois qui sont passés depuis le début de saison, c'était un peu KD, dont c'est pas la force majeure, mais qui est pas mauvais non plus, qui a des qualités à faire valoir de ce côté-là. On en reparlera plus tard, mais effectivement, une en particulier, nouvelle recrue, qui peut éventuellement s'insérer un peu dans ce rôle-là. On en reparlera donc de Thad Young. Mais que ça soit Nurkic ou Eubanks, les deux, il peut y avoir quelques petites difficultés qui sont posées en play-off par rapport au fait qu'effectivement, en termes de mobilité latérale, c'est pas ce qui se fait de mieux. Physiquement, sur l'homme, c'est bien. Les deux, d'ailleurs. Même Eubanks, il est un peu undersized, mais il fait quand même valoir un petit peu ses muscles. Et Sagna, qu'il est capable de résister un petit peu dans la raquette. Moins que Nurkic, mais quand même, pour un pivot remplaçant, il n'est pas trop mauvais de ce côté-là. Mais ouais, après, une fois que sur pick and roll, t'es obligé de switcher, que tu te retrouves sur une île face à un mec qui dribble bien, qui feinte bien, etc., ça peut donner les portes du saloon derrière. Et ouais, du coup, ça rend très compliqué de long temps de jeu pour ce genre de joueur, peut-être sur des séries de playoffs. On sait que les équipes s'ajustent, ciblent les joueurs plus facilement. Mais toutes les équipes ont en général au moins un joueur comme ça que l'adversaire est en capacité de cibler. Tu joues les Lakers, tu vas cibler Austin Reeves ou D'Angelo Russell. Tu joues Denver de la même façon. Tu peux essayer de cibler un Jokic, même si on sait surtout qu'il a lui derrière, il a Aaron Gordon qui peut quand même faire le taf en rotation, en aide. On n'a pas Aaron Gordon. Et puis bon, Jokic, on sait qu'après on attaque, bonjour l'entreprise des démolitions. Donc c'est un peu ça le souci aussi. Mais bref, voilà, toutes les équipes ont les points faibles sur lesquels les adversaires peuvent appuyer un peu. Je pense qu'à la deadline, on a essayé de combler tant bien que mal un petit peu ce côté-là. Et je trouve, on en reparlera, mais pour moi, d'assez belle manière, avec O'Neal et Thad Young. Ça va poser un problème. La question reste ouverte. Ça posera, oui, disons que pour moi, ça semble être une évidence qu'il y a des séquences de matchs en play-off dans lesquels Nurkic sera utile en attaque, mais sera aussi peut-être problématique en défense. Mais c'est un petit peu toute la défense des Suns qui va être testée. C'est-à-dire qu'après, on va voir comment des joueurs comme Bill, Booker, Allen, Gordon, seront capables d'élever d'un cran leur niveau de jeu défensif pour arriver à faire en sorte qu'on puisse vraiment tenir la route contre les gros cylindrés et gagner des séries de play-offs. Donc, on en discutera quand l'heure viendra, mais on sait déjà que la question fera plus que se poser dans les mois à venir.
C'est ça, effectivement, c'était plutôt un avant-goût, mais bah, c'est bien, je suis ravi de voir qu'on est, on a le même genre de réflexion sur ce sujet. Bah écoute, vu que tu as habilement cité son nom, on va peut-être passer sur lui pour rester dans les pivots, sur Drew Eubanks, qui est donc le deuxième pivot, hein, le pivot backup clairement de Yusuf Nurkić, comme il l'était d'ailleurs à Portland ces dernières saisons. Et donc on va pouvoir noter Eubanks. Je vais commencer un peu sur Drew, et puis je te laisserai donner ta note après. Donc moi je lui ai mis un petit 6 sur 13, alors donc juste en dessous de la moyenne, hein, si vous êtes matheux. En gros pour moi, Eubanks, là cette saison, ce qu'il montre c'est vraiment très très proche de ce qu'on pouvait attendre, c'est-à-dire vraiment un joueur qui a de l'énergie, hein, voilà, qui donne pas sa part au chien pour ce qui est de jouer physique et d'aller fracasser les raquettes et d'aller au contre d'ailleurs aussi. C'est un joueur qui est plutôt efficace en attaque, même si c'est pas non plus extraordinaire, mais qui cette saison tourne, j'essaie de retrouver un peu les stats pour pas vous dire n'importe quoi, mais qui tourne voilà ça à 1,33 points par possession cette saison selon Cleaning the Glass, donc ça le met dans 83e centile pour les bigs, c'est plutôt pas mal, mais c'est pas non plus extraordinaire, et effectivement ça se limite à des shoots relativement faciles. Défensivement, bon, ça c'est un bon protecteur de cercle, hein, comme on l'a dit, mais sans plus. C'est ça, en fait. Moi, ce que je remarque, et ce que j'ai remarqué avec Drew depuis le début de la saison, c'est qu'il a quand même eu du mal à aller un peu plus loin que ce qu'on attendait de lui, notamment parce qu'effectivement, il y a ce côté-là, hein, c'est normal pour beaucoup de backups, mais d'opportunités de match-up notamment. C'est-à-dire si dans un match on se rend compte qu'il est utile, on va faire appel à lui un peu plus, mais le match d'après il peut ne pas du tout jouer parce que justement ça s'y prête pas ou quoi que ce soit. Il a quand même été régulièrement l'option numéro 1 en remplacement de Nurkić dans les rotations, mais il a été un peu trop irrégulier selon moi pour mériter la moyenne, notamment parce qu'il y a eu cette très très mauvaise passe là en décembre où il était vraiment même problématique pour l'équipe, hein. Malheureusement en plus c'est tombé pendant l'absence de Nurkić, mais on a bien vu le problème quand il a été titulaire contre Sacramento et contre Dallas. Globalement, voilà, il y a eu un gros trou à ce moment-là. Moi, j'ai même eu peur qu'il sorte définitivement de la rotation parce que Azubuike, on va en parler juste après rapidement, mais lui a plutôt assuré à ce moment-là. Mais Eubanks a repris un peu, voilà, le taureau par les cornes, on va dire. Il est revenu dans la rotation, il s'est bien battu et en fait depuis, il y a eu notamment ce match contre Chicago là où il fait vraiment beaucoup beaucoup de bien. Ça a déclenché un peu un nouveau cycle plutôt vertueux pour lui, et depuis c'est plutôt satisfaisant. Globalement ça va, quoi, il est dans ce qu'on attendait de lui. Il est quand même clairement, hein, on s'attendait à ce qu'il soit limité, donc il l'est. Moi je trouve assez dommage son irrégularité en attaque, d'autant plus que quand il est bon et quand il arrive vraiment à être dynamique dans son attaque du cercle, que ce soit avec le ballon, il a rarement le ballon dans les mains, ou bien sûr plus sur des choses construites, des pick and roll ou des cuts ou ce genre de choses, quand il arrive à scorer, en gros, il y a eu 11 matchs cette saison où il a scoré plus de 10 points, c'est quand même 8 victoires de Phoenix pour 3 défaites seulement, et c'est les 7 derniers matchs où il a marqué plus de 10 points, Phoenix s'est imposé, donc il y a vraiment un côté facteur X entre guillemets, hein, avec lui, petit facteur X. Mais quand Eubanks fait une bonne production, généralement ça se passe très bien pour Phoenix. Voilà, mais évidemment, c'est un joueur qui est impensable à ce stade d'imaginer en play-off, mais il apporte à peu près ce qu'on attendait de lui. Pour moi, c'est 6 sur 13. Toi, qu'est-ce que tu penses de ce début de saison de Drew Eubanks?
Ouais, écoute, je vais être aussi d'accord avec toi. Je vais donner la même note. C'est à ça que j'ai pensé tout de suite, moi, 6. Pourquoi? Parce que il est plus ou moins en conformité avec ce que j'attendais au début de saison, j'ai envie de dire légèrement en dessous en termes de points. J'espérais de lui qu'il tourne plus à peut-être 7-8 points et 5 rebonds, 5 et demi. Donc statistiquement, il est un peu en dessous de ces standards-là, mais bon, il joue pas énorme non plus, il a 16 minutes par match. S'il joue pas énorme non plus, c'est que il y a des choses que Vogel a vues, a repérées et qui n'ont pas forcément peut-être donné entière satisfaction. Maintenant, on voit qu'il n'a pas des pourcentages au shoot dégueulasses non plus. Donc, c'est pas un mec qui brille dans tous les sens ou qui rate des layups ou des dunks faciles. Donc, à la finition, il est là où on l'attend, mais sur un petit volume et un petit nombre de minutes par match. Donc, sans m'éterniser sur Eubanks, en saison régulière, utile, parce que oui, il va t'apporter en sortie de banc un petit peu de points, un petit peu de rebond, un contre dans un match, voire deux, s'il est un peu en forme, et puis voilà, quelques écrans. Donc, un joueur à la panoplie plutôt limitée, avec un petit hook intéressant à moins de 2 mètres du cercle. Et voilà, une grosse détente, mais il est un peu undersized, hein, on le sait. Vraiment, il fait une taille plutôt déliée fort, mais ses gros muscles lui permettent de jouer pivot. Et puis, bon, heureusement pour lui, parce qu'il n'aurait pas la qualité sinon pour jouer au poste 4. Donc voilà, légère déception par rapport à ce que j'en attends. Enfin, oui, quand même, déception, il faut que je le reconnaisse par rapport à ce que j'en attendais en début de saison. J'avais même osé dire, et je suis le premier à reconnaître mes conneries, et Dieu sait que j'en ai dit. Quand je parlais du fait que beaucoup de fans, après quelques mois de saison régulière, demanderont moins de Nurkic et plus de Eubanks, bah non, non, clairement non.
Finalement non.
Plus de Nurkic et moins de Eubanks. Ouais, donc,
bon, et on est content qu'on n'ait pas eu à avoir plus de Eubanks, justement, que de, comme je disais avant, ouais, que Nurkic ait joué ces 52 matchs-là. Alors, je ne l'ai pas dit, mais quatrième plus gros total de minutes des Suns cette saison, Youssouf Nurkic. Donc, c'est pas mal, hein, c'est vraiment pas mal. Il est là. Ouais. Quoi. Je te laisse reprendre sur Doudou si tu avais quelque chose à ajouter.
Ouais, bah, on touche du bois pour qu'il reste là, parce que si on devait compter que sur Eubanks vraiment pour aller loin en saison et encore plus en play-off, on risque d'aller, comme dirait Méjaquet,
au devant de grandes déconvenues.
Au devant de grandes déconvenues. Donc, Eubanks, voilà, 6 sur 10. Un 6, je ne sais pas s'il est généreux ou pas, mais je ne pense pas qu'il mérite non plus d'avoir
une
note genre « Ah, il a été catastrophique ». Il a un plus-minus qui s'approche petit à petit de zéro. Il était un peu mal parti en début de saison. Il apporte quand même quelques petites choses. Après on verra s'il va garder ou non son temps de jeu, parce qu'en gros moi je pense que ce qui va se passer, alors on est aux deux tiers de la saison, donc moi j'aime bien diviser les saisons en tiers, hein, donc le début de saison, le cœur de la saison, la fin de saison, et puis un autre tiers quand tu vas très loin en playoff, enfin un autre tiers au sens où voilà, tu rajoutes à nouveau on ne sait pas combien de matchs dans les playoffs, mais idéalement plus d'une vingtaine, hein, pour aller jusqu'au titre. Et donc, ça fait trois phases en saison régulière et une phase de playoff. Et là, la phase de saison régulière pour Eubanks, ça va être est-ce que tu t'inscris dans la rotation de playoff ou non. Donc là, on voit qu'il y a une recrue dont on va parler qui vient apporter du grain dans ce moulin. Et ben on va voir ce que ça donne. Est-ce que Eubanks...
Non, ça va être...
Est-ce qu'il va garder ça 16, va être très intéressant, 18 minutes
ouais, voilà, ça, bah, en fait, là, aujourd'hui, sortir. Effectivement, il s'est fixé là, sur cette espèce de un peu grosse quinzaine de minutes là, depuis son retour dans la rotation en janvier. Et effectivement, oui, la question se pose vraiment. Alors, ça va dépendre de beaucoup de facteurs, mais c'est vrai on va y venir après, mais forcément l'arrivée de Thad Young et les objectifs qui sont fixés autour de lui, voilà. Mais il y a des interrogations autour du niveau de physique de Thad Young, et plus généralement, alors ça on en parlera peut-être dans un épisode ultérieur, hein, quand on sera justement dans cette dernière phase de la saison. Mais il y a aussi un intérêt à utiliser au max à ce moment-là tes joueurs de saison régulière que tu sais que tu vas pas faire jouer en playoff. Enfin, je sais pas si je me fais comprendre, mais dans le sens où c'est des mecs que tu peux épuiser à la tâche dans le sprint final, c'est pas très grave en fait, tu vois. Il y a un peu ce côté-là, on avait eu ça l'année dernière avec Landale, bon finalement il avait joué en playoff. mais je veux dire, faire plus confiance à des joueurs que tu sais dont tu sais que tu vas avoir moins besoin en playoff, dans le sens où ils vont pouvoir, en termes de minutes et donc forcément d'implication physique, peut-être équilibrer la balance par rapport aux stars qu'on va devoir préserver forcément.
C'est vrai.
C'est des questionnements, et on verra tout ça. De toute façon, ça va être intéressant dans les semaines à suivre. Pour finir très rapidement sur les pivots, un petit mot peut-être sur Udoka Azubuike, qui est le troisième pivot, qui était un de nos joueurs two-way cette saison, qui a été finalement très peu utilisé. Hein, je sais même plus combien de minutes au total a joué Udoka Azubuike, mais c'est pas énorme. Hein. C'est pas énorme. C'est 107 minutes au total, donc c'est un peu plus que Saben Lee. Il y a beaucoup de garbage time. Enfin, il y a un peu de garbage time quand même. Mais finalement, il y a eu ce petit passage là justement où il a remplacé Eubanks quand il était vraiment au fond du trou. Je pense, j'allais dire mentalement. Je pense que c'était mental plus qu'autre chose hein, à ce moment-là. Et donc du coup, ce passage où il a plutôt été un bon soldat, hein, Azubuike. Ouais, il est limité, mais c'est un pivot vraiment de très solide, très costaud, notamment au niveau du bas du corps et tout machin. Donc c'est difficile de le bouger. Il a joué ce rôle-là. Il a eu ce petit passage. Je crois que c'est contre Houston où il met 11 points et où il est plutôt utile. Bon, voilà, un joueur de bout de banc dont on savait qu'il aurait peu d'occasions de se montrer. Sur les rares occasions, il n'a pas été ridicule sans être non plus évidemment transcendant. Il a gardé sa position dans la rotation finalement très logiquement. Donc voilà, donc très. Enfin, moi je lui mets un 5, on va dire, parce qu'il n'y a pas grand chose de plus à dire sur lui que bah, il est un peu là où on attendait, un petit cran en dessous de Eubanks, mais c'est un peu, voilà, c'est le backup du backup, quoi.
Ouais.
Toi, t'en penses quoi?
Ouais, bah, zéro attente par rapport à Azubuike au début de saison. Est-ce qu'il a été en dessous? Est-ce qu'il a performé en dessous de ce que j'en attendais? Pas forcément. Bon, je sais pas quoi en penser. Si je note par rapport aux attentes, je lui mets 5 ou 6, parce que j'en attendais vraiment pas grand-chose. Mm-hmm. Bon, dans l'absolu, Azubuike, c'est un joueur... qui pèse très peu en attaque. Parce qu'en gros, il n'a pas de move, il ne peut que finir au cercle sur un bon offensif ou un malentendu, un alley-oop ou un truc comme ça. Et en défense, c'est un plot, comme tu as dit, qui a le volume physique pour résister à des charges de big musculeux dans la raquette. Mais voilà, un profil que tu ne peux clairement pas jouer en play-off, qui a ni le bagage technique, ni l'expérience, ni le mental, enfin, oui, je dis ni le mental,
oui, c'est ça,
dans le sens où il ne l'a jamais prouvé. Mm-hmm. C'est un joueur two-way, donc de toute façon, je crois qu'il ne jouera même pas les playoffs, si je ne dis pas de conneries, les two-way ne peuvent même pas être inscrits dans la rotation playoff. D'ailleurs, petite
parenthèse. Il faudrait que son contrat soit effectivement validé, mais il y a peu de chances qu'il le soit.
Il y a peu de chances qu'il le soit. Bah, c'était ce que j'allais dire, c'est qu'il reste un spot à prendre pour les Suns. Moi, je suis en train de croiser les doigts très, 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 très fort pour qu'on prenne un Delon Wright ou un Ish Smith. Donc, moi, j'aimerais vraiment qu'on aille prendre un meneur de métier qui n'aura pas forcément un temps de jeu régulier, etc., etc., mais qui, en cas de besoin, peut quand même fournir ce qu'il faut au niveau du porté de ballon, enfin, du porté de ballon, on se comprend, hein, de la tenue de la balle. Et que ça soit en saison régulière
et de la création pour les autres, hein, simplement.
En play-off, s'il performe, pourquoi pas, hein, c'est pas interdit. Donc moi, c'est vraiment le profil que je privilégierais. Hein. Il y a les rumeurs qui tournent autour de Gallinari, mais moi, j'ai du mal à comprendre pourquoi on irait chercher Gallinari, dans le sens où tu vas pas lui trouver du temps de jeu, même si tu essayes, parce qu'il y a déjà des joueurs sur les postes 3, 4 et 5, à moins qu'ils prennent le temps de jeu du Ubex comme pivot remplaçant, non, mais ouais. Jouer avec Gallinari.
Écoute, toi, ne nous avançons pas trop.
C'est un peu tendu. Mais voilà, non, je vais mettre pareil, la même note que toi, bon, pour pas trop le saquer, que lui qui le mérite pas, parce que bon, on n'en attendait pas grand chose. Voilà, on va dire un 5.
Oui, c'était vrai. C'est ça, effectivement. Encore une fois, ça reste un joueur marginal dans la rotation, donc il n'y a pas de... Voilà, encore une fois, ça n'a pas été infamant quand il était sur le terrain, mais on n'en attendait pas du tout monts et merveilles, donc rien de grave, et... Enfin, rien de grave. Rien d'exceptionnel non plus, et rien de grave non plus, effectivement, parce qu'il a eu très peu de temps de jeu, comme on le disait, 107 minutes à peine. On va passer à un joueur qui a été beaucoup plus important dans la rotation de Phoenix cette saison, c'est peu de le dire, parce que c'est le joueur qui a joué le plus de minutes avec Phoenix cette saison, donc on passe au poste d'allié fort et à notre titulaire à ce poste depuis le début de la saison. J'ai nommé monsieur Kevin Durant, évidemment. Bon, alors, du coup, je vais te redonner la parole pour te laisser dire ta note en premier, parce que je l'ai fait la semaine dernière. KD, c'est quand même très très solide, quoi. C'est clair. Qu'est-ce que t'en as pensé, Hicham, de ce début de saison, des deux premiers tiers de saison?
Bah alors, oui, méga solide. Donc, quand on regarde purement et simplement ses statistiques, on se rend compte qu'à l'âge de 35, il va sur ses 36 ans. Il n'est pas forcément en dessous des standards qu'il a montré depuis plus d'une dizaine d'années, que ce soit au point, au rebond, à la passe, au niveau des stocks, des pourcentages de réussite, où il est même plutôt bon par rapport à ses moyennes de carrière. Donc en gros, KD n'a pas baissé, ce qui est hallucinant pour un joueur voilà, qui a un âge plus avancé, qui a connu quand même des blessures assez graves ces dernières années. Mais voilà, on comprend pourquoi il a été échangé contre quand même un package de joueurs pas vilains, plusieurs jeunes joueurs, plein de tours de draft, etc. Que dire de Kevin Durant? Je vais commencer par la note, je vais dire 12 et je vais expliquer pourquoi pas 13. Bon, 12 parce qu'il est juste exceptionnel. Type, c'est un des, allez, à mon avis, sans conteste, aucun un top allez à grand minima top 12 joueurs de la saison, je pense, et pour moi c'est pas usurpé de dire que il est même top 10, donc candidat sérieux pour une des All-NBA teams, hein, first ou second à mon avis, service de jouer je pense entre lui et Leonard pour une place de forward. Que dire sur KD? Bah, de l'efficacité, déjà, on rappelle ses pourcentages, il y a genre 53-54% de mémoire au shoot global, 45% à 3 points, presque 90 au lancer franc, enfin, en dessous de 90, mais pas très très loin. Je sais qu'en effectif field goal percentage, j'ai regardé ça récemment, il a un pourcentage hallucinant, effectif field goal à genre 60%. Ce qui combine les deux points et les trois points, c'est le pourcentage de réussite que t'aurais si tous tes shoots se convertissaient en shoot à deux points. Donc c'est assez exceptionnel d'être à 60%. On devine bien, total shooting percentage forcément plus haut vu qu'il shoot pas mal de lancers francs et qu'il shoot bien. Donc voilà, de l'efficacité, du volume, à la passe, il fait une de ses meilleures saisons. Si ce n'est la meilleure, parce que je crois qu'il a près de 6 passes de moyenne, ce qui est juste ouf, parce que voilà, on se dit pas au premier abord, tiens, KD, c'est un mec qui va partager la gonfle, envoyer de la passe D, etc. C'est plutôt un finisseur. Mais non, il prouve que voilà, il est tout à fait capable de s'insérer aussi dans un collectif et d'être un élément fluidifiant, on va dire, de l'attaque. Donc voilà, en défense, on a vu des matchs comme contre Sacramento il y a quelques semaines où clairement c'est avec sa défense qui fait la différence et qui permet à l'équipe de gagner. Il l'a montré plusieurs fois au cours de la saison. Je sais que ça va mieux pour lui au niveau des turnovers, mais il avait très mal commencé la saison. Il avait un turnover rate et puis voilà, un nombre total de turnovers qui était quand même critiquement élevé. Ça s'est amélioré ces dernières semaines, tant mieux, parce que c'était vraiment là que le bas blessait avec lui. Mais globalement, sur ces deux tiers de saison, voilà, où quand même sur une bonne partie, il me faisait un peu peur au niveau de sa capacité à bien dribbler en trafic et à pas perdre le ballon. Voilà, des pertes de balles, il en a à la fois sur ses dribbles, mais aussi parfois sur ses passes, où ça lui arrive aussi, voilà, d'envoyer quelques ballons de temps en temps directement dans les mains d'adversaires. Donc parce que, j'ai envie de dire, il n'est pas parfait, et que Kevin Durant, c'est un joueur qui a des standards méga élevés, et que forcément, on en attend monts et merveilles dès le départ d'une saison, je ne lui mets pas 13. Je ne lui mets pas 13, mais... pour avoir 13, je sais pas, faut être playoff book, faut être Nikolaj, faut être playoff Giannis il y a 12 ans, enfin voilà, faut être
playoff KD avec les Nets.
Ouais, c'est ça, ouais, playoff KD avec les Nets.
Ou avec les Warriors, ça marche aussi. Hein. Enfin, après, c'est moins.
Ça marche aussi.
Moins pour les Warriors, bien sûr.
Tout à fait. Mais c'est mieux, il montre de meilleures choses cette saison que ce qu'il a montré, bon, dans des séries peut-être un peu compliquées, et puis il venait d'arriver aux Suns dans les playoffs derniers où vraiment on le sentait en dedans, mais en même temps, on ne peut pas lui en vouloir complètement parce qu'on se rappelle qu'on avait une rotation pour les playoffs avec des joueurs qui avaient des temps de jeu majeurs comme André Chamet, et ça pique les yeux. Donc voilà, il fait une énorme saison. C'est grâce à lui qu'on est là où on est, parce qu'il a porté l'équipe à bout de bras sur les 10-15 premiers matchs avant que Booker revienne de blessure. Et puis ensuite, Bill, qui est arrivé bien plus tard, de son problème de dos. Donc voilà, il a porté l'équipe. Et à son âge, avoir ce volume de jeu, de minutes, et cette capacité, voilà, à être un véritable leader sur le terrain, bravo à lui. Il fait une saison quasiment calibrée MVP. Je pense qu'il ne sera pas dans la discussion MVP, mais il mérite d'être dans les honorable mentions qui est après la liste des gros candidats, les Jokic et compagnie. Donc non, très bien, excellent. Il mérite son statut All-Star largement. Et puis j'espère pour lui une All-NBA team à la fin de la saison. Et
la saison.
Un bon 12, un bon 12, pas un 12 généreux, un vrai beau 12. Et on verra, peut-être que d'ici la fin de saison, quand on fera le bilan de fin de saison, je dirai ah non, KD c'est 13 et c'est tout. On va voir. On va faire 27 derniers matchs de grande folie. Quoi,
Bah après, ça va être compliqué. Pour la simple et bonne raison qu'on est assez loin en termes de bilan des meilleures équipes de la NBA, donc pour être dans la discussion de MVP, enfin, en tout cas il me semblait, hein, on se souvient d'une année où Booker s'est fait voler un MVP par Jokic, j'hésite pas à le dire, oui, il s'est fait voler un MVP par Jokic, tout simplement parce que, bah, voilà, encore une fois, les résultats collectifs sont censés être super importants dans le MVP, bon, c'est encore autre chose. Un autre débat qu'on ne va pas avoir aujourd'hui, sur KD, bah, ah, tu m'as presque convaincu, je voulais lui mettre 11, je vais rester sur mon 11, effectivement. Ah ouais. Il a été extraordinaire vraiment dans tous les secteurs de jeu depuis le début de la saison. Comme tu dis, sans lui, je sais pas comment aurait tourné la saison des Suns, parce qu'il y a un moment où c'était vraiment le feu et où tout reposait en fait sur Kevin Durant, quoi, et il a fait ça vraiment bien à ce moment-là, même si, bah, il y a aussi des petits ratés, mais globalement, enfin, c'est vraiment un leader exceptionnel. C'est peut-être ça le plus rassurant. On pouvait éventuellement s'interroger après le peu de choses qu'on avait vu la saison dernière, mais quel va être l'état d'esprit de Kevin Durant, comment il va gérer le besoin. Je le répète souvent dans nos discussions entre fans des Suns, pour moi aujourd'hui, celui qui remet en cause l'investissement de KD, son envie d'être à Phoenix, c'est quelqu'un qui regarde pas les matchs, tout simplement, parce qu'il suffit de regarder les matchs pour voir que ce mec là c'est c'est fou de se dire ça. C'est à 36 ans, c'est quasiment le joueur qui a le plus, bientôt 36 ans, c'est quasiment le joueur qui est le premier sur les deuxièmes ballons, enfin, qui se jette sur un mort de faim sur ce type d'action, qui va au mastic, mais systématiquement. C'est peut-être le joueur des Suns qui finit le plus au sol, avec Booker évidemment, sur ses actions et sur ses drives et tout. Enfin, je veux dire, il y a l'investissement physique, il y a l'investissement mental. Ce mec, tous les soirs, il est prêt à délivrer ce qu'il faut, et il y a le côté comment dire, adaptation, altruisme pur, dans le sens où, bah, s'il faut porter l'équipe sur son dos, mettre 40 points, il va le faire. S'il faut au contraire se mettre un peu en retrait au niveau du scoring, plus faire circuler la balle, faire confiance aux copains qui sont en feu, il le fait aussi, mais presque naturellement. Il y a le switch dans sa tête, on sait pas comment ça fonctionne, mais c'est très très, enfin, c'est presque immédiat dans chaque situation, dans chaque situation de match, on va dire. Vraiment, là-dessus, enfin voilà, je suis épaté, évidemment on pouvait l'être. Le vrai problème, le seul problème de la saison de Kevin Durant pour l'instant, c'est qu'il joue trop. Il a 37 minutes par match de moyenne, il a joué 48 matchs, c'est énorme. Il y a le gros risque d'en avoir trop fait. On a connu ça avec Chris Paul ces dernières saisons. Je vais pas te rappeler les mauvais souvenirs, Hicham, mais sur le fait que, voilà, surutilisation des vétérans en saison régulière, après t'as un problème de second souffle et d'énergie, on va dire, en playoff. Donc c'est un peu ça qui m'inquiète. Mais quant à ce qu'il apporte, ce qu'il donne depuis le début de saison aux Suns, franchement, voilà. Et c'est pour ça qu'effectivement, mon 11, il est pas cher payé du tout. C'est plus dans le sens où je suis pas surpris, parce que c'est Kevin Durant, donc voilà, on s'attendait à ça, mais il est au niveau évidemment auquel je m'attendais. C'est un niveau stratosphérique. Pareil, hein, on verra sur la durée, mais peut-être que ce qu'est en train de faire LeBron James occulte un peu le fait que tu as deux joueurs derrière, Curry et Durant, qui sont aussi extraterrestres que lui sur la longévité. Et franchement, que Durant arrive à produire ce type de saison-là à 35 ans, bientôt 36, c'est juste irréel, quoi. Parce que vraiment, au-delà de la réussite au tir, il y a vraiment tout l'impact physique qu'il met dans ces matchs soir après soir. Tu l'as dit, Hicham, il y a un rôle énorme en défense. C'est notre meilleur défenseur depuis le début de la saison. C'était déjà le cas à Brooklyn pendant son passage à Brooklyn. Je veux dire, il est devenu une encre défensive. Alors, pas vraiment une encre, parce que c'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est pas un gros joueur que tu vas placer à l'intérieur, c'est pas un Rudy Gobert, quoi. Mais par contre, un joueur essentiel sur le plan défensif. Et vraiment, encore une fois, on a des difficultés hein, sur ce côté-là, mais sans l'apport de KD, on serait ridicule en défense. Et c'est pas le cas, notamment parce qu'il est monstrueux. Je sais plus c'est quoi la série de matchs consécutifs avec des contres là qui enchaînent, mais c'est absolument incroyable. Et effectivement, il y a ce côté constance, régularité. On parlait à des années-lumière hein, pour Ayo Banks de l'irrégularité ou même pour un Nurkic. KD, il y a vraiment une constance. Alors même si effectivement au niveau du tir, c'est pas tous les soirs au top. Et je finirai juste sur un truc qui m'a bien fait marrer. Je regardais ses points par possession et je regardais les positionnements et tout. Je me disais, putain, c'est bizarre. Il a 1,30 points par possession, mais il est que dans le 75e centile sur son poste. Bon, voilà. Et donc là. Ce que je disais en début d'émission, c'est là que j'ai vu qu'il était classifié dans Big depuis la saison dernière, en fait. Donc, c'est poste 4 et poste 5, j'imagine. Et effectivement, il y a un vrai problème là-dessus. C'est qu'en fait, là, il est dans le 75e centile, mais j'ai pas fait les. faudrait regarder pour.
Bon exercice, tiens, pour la prochaine.
Pour Yanis, tu vois, mais pour les forwards et tout, où il se positionnerait, tu vois, dans quel centile il se positionnerait s'il était classé parmi les forwards. Parce qu'effectivement, en termes de standard, c'est toi qui l'as dit un peu plus tôt. Dans ton intervention, mais il est clairement dans les standards de la carrière de Kevin Durant. 1,30 par possession, je pense que c'est à peu près la moyenne de Kevin Durant en carrière, quoi. Il y a juste au tout début de carrière, ces deux premières saisons où il est, enfin même ces 3-4 premières saisons où il est en dessous de ces standards-là, mais ensuite c'est vraiment constant, c'est du 120, enfin 1,29, 1,28, 1,28, 1,28, 1,31, 1,29, 1,28, 1,34, 1,27, tout ça c'est les saisons entre 2012-2013 et 2021-2022, donc il y a vraiment ce côté, c'est son range habituel. L'année dernière c'était vraiment irréel puisqu'il était à 1,37 sur la partie avec Brooklyn et 1,40 sur la partie avec Phoenix, donc c'était vraiment monstrueux et complètement hallucinant. Là on est rentré juste dans ses standards à lui qui sont irréels pour n'importe quel autre joueur. Je terminerai peut-être avec ça. Je ne sais pas si on arrivera à mettre ce graphique en lien, mais on a vu passer ça il y a quelques semaines, un graphique qui mettait en rapport l'efficacité des joueurs, donc l'effective field goal percentage, avec la difficulté des tirs pris. Donc estimé en fonction, j'imagine, des zones, du nombre de défenses, de la proximité du défenseur, du nombre de défenseurs dans certains cas. Et donc Eddy était de très loin le joueur de NBA qui prenait les tirs les plus durs. Par contre, il était dans le top 5 de ceux qui avaient la meilleure réussite parmi donc les gros, on parlait des stars et des premières options, on va dire, de manière générale, première et deuxième options. Donc vraiment, il y a un côté complètement anormal, irrationnel à Kevin Durant, mais il le fait avec tellement de régularité qu'en fait, pour lui, c'est normal et il faut bien s'y habituer en tant que fan de Phoenix. Et c'est ça qui est le plus agréable pour nous, c'est qu'il descend pas vraiment au niveau avec l'âge. Alors je vois que l'heure tourne et qu'on a déjà dit pas mal de choses, on va passer vite à la suite. Des ailiers forts et à cette invité surprise, je vais enchaîner donc avec lui, avec Bol Bol, qui est moi je vais donner ma note, donc pour l'instant elle est on va la fixer à 8/13 parce que pour le coup on parlait de ce qu'on attendait des joueurs Hicham, et effectivement Bol c'est vraiment le joueur tu l'as dit, avec Izubuke ou avec Sebony, avec ces joueurs de qu'on imaginait vraiment bout de banc et dont on n'attendait absolument rien, en fait, cette saison. Et il s'est avéré, vraiment... Alors, pour l'instant, l'échantillon reste très petit, et il y a toujours des problèmes. Hein. Bol n'est pas le joueur parfait. Je vais réussir à le dire. Bol Bol n'est pas le joueur parfait qu'imagine Shaquille O'Neal, voilà. Mais au-delà de ça, c'est quand même une très bonne surprise, hein, vraiment, dans la rotation de cette saison. Il a réussi à s'installer, il a réussi à passer devant pas mal de joueurs là, sur ces postes-là de 3-4, enfin de 4 et de small 5, même si lui n'est pas du tout small, hein, il fait 2m20, donc, donc il est tout à fait dans les dimensions du pivot, pas au niveau de l'épaisseur, mais au niveau de la taille. Et il y a cette réussite absolument incroyable, le tir là, sur ses... C'est ce petit échantillon-là, seulement cette vingtaine de matchs avec Phoenix, 18 matchs au total, mais vraiment des pourcentages de réussite absolument hallucinants pour Bol Bol, qui est donc, je crois, oui, c'est ça, 1,69 points par possession. Je crois qu'il n'y a personne en NBA qui fait mieux, tout simplement. Voilà, il est tout seul dans sa tour d'ivoire, mais bien sûr, évidemment, il faut nuancer tout ça. Hein, il est, en plus, parce qu'il est efficace partout, hein. Il est efficace à 3 points, il est efficace près du cercle, mais il est efficace aussi à mi-distance sur les quelques tirs qu'il a pris. Enfin, c'est monstrueux, hein. Vraiment Bol Bol en termes d'efficacité au tir cette saison, c'est monstrueux. Évidemment à nuancer par la taille vraiment très réduite de l'échantillon, hein. Donc Cleaning the Glass là, qui sort toutes les stats dont je vous parle en termes de points par possession, a compté seulement 128 minutes significatives jouées par Bol Bol cette saison. Significatives, ça veut dire qu'ils ne sont pas des garbage time, quoi, en gros. Et sur donc 128 minutes, c'est tout simplement le plus faible temps de jeu de l'équipe parmi les joueurs un peu importants, et ceux qui sont pas arrivés il y a une semaine, évidemment. Donc, enfin, parmi les joueurs non toués, tout simplement. Donc, beaucoup moins, c'est plus de deux fois moins de minutes significatives que Yuta Watanabe, Nassir Little, dont on va parler juste après, ou Shime Zimetu. Donc, il a très peu joué, mais son petit passage là depuis un mois est bon. Il avait fait une première irruption, on va dire, dans la rotation qui s'était très bien passée. Puis, il avait été blessé au pied, il avait manqué, je crois, 2 ou 3 semaines de compétition. Il était revenu plutôt, il est revenu là encore plutôt à un bon niveau. Après, ça reste un joueur limité. Il y a quand même beaucoup de points d'interrogation autour de lui. Enfin, moi, je garde en mémoire là, parce que c'est le dernier match des Suns que j'ai vu à date. Le match contre les Suns, contre les Kings, de Sacramento, et son passage qui est complètement abominable, hein, où il se fait cibler par Malik Monk en défense, et où Monk lui fait la chanson. Et je crois que c'est moins 8 en 2 minutes. Il joue que 2 minutes sur ce match-là, mais on prend un moins 8 quand il est sur le terrain, sachant que c'est un match qu'on gagne de 5 points. Je vous laisse faire la soustraction de ce qu'il a fallu remonter. Donc voilà, du coup, le côté comment dire, ça reste très fragile pour moi, Bol Bol. Ce qu'il produit sur le terrain, je le prends pas pour argent comptant. Par contre, je suis bien obligé de reconnaître que ce qu'il a produit est largement supérieur à mes attentes, et donc c'est pour cette raison que je lui mets 8. Qu'est-ce que tu penses, toi, du cas Bol Bol, Hicham? Comment tu le notes et comment tu justifies ça?
Alors, un cas effectivement pas facile à évaluer. Les auditeurs, ils vont croire qu'on s'est mis d'accord, mais j'ai envie de dire...
Alors que pas du tout, effectivement, on précise qu'on ne sait pas, du tout...
Du tout. Mais franchement, hein, dès que tu m'as dit Bol Bol, je me suis dit, ah, Bol Bol, je sens que ça va être un 8 légèrement au-dessus de la moyenne pour les raisons que je vais évoquer. Et puis, bon, bah toi, tu l'as donné 8. Donc, mais je lui donne quand même aussi 8, bon, pour toutes les raisons que tu as évoquées. Bon, déjà, c'est pas un joueur dont j'attendais beaucoup au début de saison, loin de là. J'étais un de ses pires détracteurs. Au départ, j'ai dit, ouais, non, là, on a pris un gars, c'est même pas un joueur NBA, il aura pas de temps de jeu, il jouera jamais en playoff, il est injouable, voilà, défensivement, c'est les portes du saloon, dans la défense de périmètre, il est dans le centième sentier le plus mauvais la saison dernière. Qu'est-ce qu'il peut nous apporter? Il manque de muscles pour jouer près du cercle en défense. En attaque, voilà, c'est un joueur un peu fantasque qui va prendre des shoots un peu casse-croûte, dribbler au-dessus de l'épaule de ses adversaires, vu qu'il est très grand. Et puis finalement, bah, la belle surprise, c'est que ce petit bonhomme, il a réussi à dépasser dans la rotation Yuta Watanabe, un joueur d'expérience, et des autres joueurs, voilà, bah, ceux qui sont partis dans le trade pour Royce O'Neal. Donc, aide-moi à les reciter. Utah, il y en avait plusieurs, hein. Yuta Watanabe.
Il y avait aussi, bah, dans la rotation, du coup, à ce poste-là, il a dépassé. Donc, Utah était déjà au fond. Il a dépassé Metu et Bates Diop, surtout, en fait.
Ouais, voilà, Bates Diop, Metu. Bon, il y avait Jordan Goodwin aussi dans le deal.
On peut éventuellement ajouter Little aussi, qui est un peu sur ces postes-là, et dont on va parler juste après pour clore un peu cette partie.
Tout à fait. Donc il a dépassé ces joueurs-là aux yeux de Vogel, c'est pas rien, sachant que c'est le plus jeune de tous ces joueurs-là, si je dis pas de bêtises, ou peut-être qu'ils ont plus ou moins le même âge avec Nassir Little, qu'il a le profil le plus atypique. un des profils peut-être les plus difficiles à jouer, parce que très grand, mais très longiligne, et voilà, manque de base au niveau de, des appuis, un centre de gravité haut, c'est pas évident de voilà, garder des joueurs sur le terrain qui vont manquer de mobilité latérale et de QI basket, mais j'ai le sentiment que depuis le début de saison, Bol Bol s'est amélioré, que ce soit au niveau de sa compréhension du jeu, de ses spots, des shoots qu'il peut prendre, de ce qu'il peut apporter. C'est probablement dû, la rumeur veut que Durant l'ait un peu pris sous son aile, et bah, j'ai l'impression que c'est en train de porter ses fruits depuis quelques mois. Il y a eu cette blessure, comme tu l'as dit, qui est venue casser un petit peu son premier élan. Mais la bonne nouvelle, c'est que depuis qu'il est revenu de blessure, sur certaines séquences de match, il a su montrer que c'était pas un leurre, cette bonne série de matchs avant de se blesser, et qu'il y a peut-être vraiment quelque chose à tirer de ce petit gars. En tout cas, en saison régulière, en play-off, je sais pas s'il jouera. Je sais pas s'il jouera 1 minute, 20 minutes ou 300 minutes au total. On verra. Mais j'en ai aucune idée, mais alors aucune. Ça va dépendre de son évolution et de sa capacité vraiment à capitaliser sur ce qu'il a déjà montré. Mais en tout cas, une belle surprise sur ce qu'il a montré. Alors, pas depuis le début de saison, parce qu'au tout début de saison, j'étais très critique, et je pense pour les bonnes raisons, c'est que il était vraiment pas bon, on va dire, sur les 20 premiers matchs.
Ouais, mais en vrai,
15-20 premiers matchs de saison.
Pour le coup, je lui en veux pas parce que, effectivement, oui, il était pas bon. D'accord. Voilà ça. Et puis, je jouais vraiment que les garbage time, en fait. Enfin, c'est compliqué.
Ouais, ouais, c'est
t'as des mecs qui arrivent à être bons dans ces moments-là et tout, et à montrer au coach que, mais t'as, t'sais, t'as pas de structure. Ouais. C'est quand même un peu bizarre, quoi, tu vois.
Oui, oui. Avec des, ouais, Goodwin, Metu et compagnie. Ouais, c'était un petit peu le caca basket. Et donc, forcément, bah, non, voilà, il a surpris agréablement toute la fanbase. Alors on sait que c'est un peu la mascotte de l'équipe. Dès qu'il est, même dans les stades adverses, voilà, il rentre sur le terrain, il est tout de suite acclamé. On dirait que même les fans adverses l'aiment bien. Bon, c'est un joueur que les fans NBA aiment à aimer. Et du coup, tant mieux, parce qu'il apporte un petit peu ce juice, ce côté, voilà, vient redynamiser un petit peu le terrain quand il rentre en jeu. Donc voilà, ça pouvait être, à mon sens, que positif au vu de ce que j'en attendais au début de saison. Donc ça pouvait être que au moins 7. Et comme effectivement, tu l'as bien rappelé, il a des très beaux pourcentages au shoot. Là, je viens de regarder, il a plus de 67% sur la saison. Alors sur un nombre très limité de shoots par match en moyenne, parce qu'il joue peu et parce que voilà, il a pas un rôle prédominant, mais quand même, il a quoi, il prend 3 shoots de moyenne ou 4 shoots par match, un truc comme ça, presque 70%, sachant que c'est pas un joueur qui est que dunk, alley-oop ou quoi, mais qui prend quelques shoots extés, même à 3 points, et qu'il a pris parfois quelques shoots, on s'est dit, wow, bol, non, ah ouais, oui, pas mal. Donc ouais, j'ai envie de dire, voilà, positif. Je lui mets un 8 aussi. Je vais essayer un moment sur un joueur de ne pas avoir la même note que toi, mais franchement, je ne sais pas.
On a réussi sur KD, mais du coup, c'est. Bah, en fait, non. Sur KD, du coup, comme on ne s'était pas consulté, on est. Enfin, si je m'étais écouté, ton argumentaire m'ayant séduit et en fait n'ayant pas d'argument contraire pour le descendre à 11, en fait, j'aurais dû dire 12. Mais effectivement, j'ai gardé mon 11 en disant, bon, il a quand même choqué un peu en début de saison et tout, machin. Donc effectivement, on a quand même une note différente, c'était celle de KD où t'avais mis 12 et j'avais mis 11. On va finir du coup sur les notes, en tout cas avec Nassir Little, sur ce front de courte. Rapidement, moi je vais donner mon petit sentiment sur lui. C'est, bah, on l'a assez peu vu, hein, finalement. Il a joué que 400 minutes, 409 minutes au total. C'est le 12e temps de jeu, hein, de Phoenix cette saison. Donc finalement, il a très peu joué, hein, par rapport justement à d'autres roleplayers qu'on a évoqués et qui ne sont plus là. Moi, je lui mets un 5 sur 13 globalement, parce que pour le coup, lui, il a déçu, hein, par rapport aux attentes que j'avais un peu en lui. c'est un joueur moyen, en fait, très moyen. Il est moyen au tir, c'est pas le pire. Et Dieu sait qu'on a eu des difficultés avec certains roleplayers dans ce domaine, mais ça, c'est pas le pire. Il a une bonne adresse, notamment à 2 points, où c'est vraiment même très bien. Il est à 68,2% de réussite, et lui non plus ne prend pas que des dunks, même s'il en prend beaucoup. Mais le problème, c'est qu'effectivement, vu sa position sur le terrain, 3-4, on va dire, avec un côté de nécessaire spacing, hein, c'est pas, il joue jamais dans un rôle de pivot. Donc du coup, il prend beaucoup de tirs à 3 points, il prend plus de tirs à 3 points. Il a pris 58 tirs à 3 points cette saison et 44 tirs à 2 points seulement. Et il est beaucoup moins efficace évidemment à 3 points. Il est à 31%, donc ça reste pas vraiment. Passable, on va dire. Voilà, j'allais dire médiocre, mais non, c'est passable. On va dire à 3 points. Au total, il est à 1,18 points par possession. Donc sur le côté offensif, il n'est pas ridicule, mais c'est loin d'être un joueur vraiment impactant pour Phoenix. Pareil du côté défensif, en fait, où il existe, mais il n'est pas vraiment très très. Enfin voilà, en fait, il existe surtout par sa dimension physique, en fait, et par le fait que voilà, c'est un joueur qui peut monter au contre assez facilement, même en bout de drive, en recovery, comme on dit. Voilà, il a, c'est pas un foudre de guerre, mais il fait relativement le taf. Franchement, c'est un joueur quand même qui est très limité sur les qualités basket pures, on va dire, qui a un gros physique, mais qui a des grosses limites en termes de qualité de basket. Voilà, moi j'attendais quand même mieux que ça, effectivement. Enfin, j'espérais mieux que ça parce que j'avais le souvenir d'il y a 2 ans à Portland où il m'avait un peu tapé dans l'œil. Là, clairement, les blessures l'ont un peu stoppé. Enfin, on dirait que les blessures l'ont un peu stoppé. Ça reste un peu une énigme quand même parce que bah voilà, il a ce contrat qui a peut-être de la valeur. Je sais pas trop, c'est difficile à dire. Qui court encore pour 2 saisons après celle-là. On va voir ce que ça va donner. Mais en tout cas, ouais, Nasir Little, moi, je le vois pas plus haut que 5 parce qu'effectivement, il a pas réussi à s'imposer dans la rotation et on voit pas pour l'instant de place vraiment pour lui dans cette rotation des Suns. Qu'est-ce que t'en penses, toi?
Ouais, bah là, on va diverger un peu. Moi, je vais être moins doux avec lui. Il m'a beaucoup déçu. Ouais. J'hésite entre 3 et 4. Je sais pas. Je vais décider dans quelques secondes. Mais en tout cas, déjà, pour parler de lui, j'en attendais plus, forcément. Déjà, ne parlons que d'un strict point de vue contractuel. Il est à 6-7 millions par saison sur plusieurs années. Ce qui fait de lui normalement un joueur qui est censé s'insérer à la lecture pure de son contrat, hein, je veux dire. Il est censé s'insérer dans une rotation, être un des 9, maximum 10 joueurs de la rotation, parce que tu payes pas un joueur ce salaire-là si c'est pas pour jouer. Et il a été dépassé par un bol-bol, à mon sens. Voilà, clairement, je préfère voir jouer aujourd'hui bol-bol que Nasir Little, d'une manière générale. Même certains des joueurs qu'on a tradé comme Keita Bates Diop, hein, au minimum, entre les deux, je pense que j'aurais gardé Keita Bates Diop. Donc non, déçu, bah notre ami de Blazers France, je crois, ou Blazers FR, je me rappelle plus exactement le. Je voudrais pas dire bêtise sur le compte Twitter, mais qui était venu. Gentiment à notre podcast en début de saison, bah, pour nous parler post-trade de Nasir Little, de Nurkic, etc. Il nous avait dit, et ça m'avait marqué, ouais, Little, c'est un joueur, tu sens que voilà, il a un potentiel et tout, mais c'est un joueur qui marche par phase, et ces phases, en fait, tu les reconnais à son foot. Je sais pas si tu te rappelles, est-ce que t'étais là sur ce pod, ou si j'étais avec Greg, je sais plus, mais en tout cas, il avait expliqué que voilà, il y a parfois tu le regardes shooter et tu vois qu'il est bien en ligne, il est droit, il a une bonne mécanique de shoot et un bon arc et ça rentre. Ça rentre plus souvent que quand il est dans ces phases où tu as l'impression qu'il shoot en biais, c'est tendu et ça brique. Et ça m'avait marqué, puis je regarde Nasir Little et si tu regardes bien, il y a des matchs au début de saison où par séquence, bah, il montre quelques bonnes dispositions et il arrive à rentrer des 3 points. Et tu vois qu'effectivement, il est bien aligné, qu'il a plus d'arc sur son shoot et ça rentre à 3 points. Et il avait d'ailleurs un pourcentage qui était plus à 35, 37, 38%. Pas dégueu. Et là, il est descendu sur la saison aux alentours de 30, ce qui veut dire que sur les 27, la deuxième tiers de saison, il a dû chuter nettement en dessous de 30, significativement en dessous de 30%. Je ne sais pas quels sont ces pourcentages, mais ils ne doivent pas être reluisants du tout. Et à chaque fois, tu le vois, il shoot un peu en biais, et c'est droit, ça part comme une fléchette, et tu sens que c'est foireux d'entrée, quoi, d'office. Tu le sens tout de suite que ça va briquer, et ça manque pas, ça brique tout le temps. Donc au shoot, il est clairement pas reliable, hein, il est pas, tu peux pas compter sur lui.
Oui, c'est ça, t'as raison, effectivement. Le fait est que tu peux pas vraiment t'appuyer sur lui, quand bien même il est un petit peu meilleur en termes de forme de shoot et même de réussite, tout simplement, hein, que un Okogie, par exemple, ou un KBD, même s'il est plus là. Bah, effectivement, comme tu dis, il y a aucune certitude, et puis en fait, voilà, c'est pas régulier, en fait, comme
tu peux. Tu peux pas te fier à lui. Moi, tu m'as surpris en annonçant ses pourcentages à 2 points. Je m'attendais pas à ce que ça soit aussi haut. Donc, bon, c'est
un peu. Je voulais regarder justement la répartition de ses tirs pour pas te dire trop de bêtises.
Alors, sur un volume très limité, hein, tu l'as dit, hein, ouais, 40 foot, moins qu'à 3 points. Mais je m'attendais pas à ce qu'il ait un pourcentage aussi élevé que ce que tu as annoncé. Je crois que tu as dit qu'il
était. Non, alors je me suis trompé de ligne quand j'ai vu le truc. Mais...
Non, peut-être.
Alors, c'est pas 65%. Donc, du coup, effectivement, c'était sur les anciennes salles. Non, c'est ça, 65% à 2 points. Ouais.
Ah, c'est ouf. Tu vois, je ne m'attendais pas.
30 sur 46.
Bon, ouais. Mais c'est un nombre si limité. 30 sur 46, ça veut dire, au vu du nombre de matchs qu'il a dû jouer depuis le début de saison, ça doit être à peu près du 1,3, 1,4 shoot tenté par match à 2 points.
En gros. C'est ça. Ouais.
Et il en met quasiment 1, j'imagine, grosso modo. Quasiment 1 sur 1,5, donc échantillon peu significatif. Bon, c'est toujours c'est un clair. Petit plus pour lui, donc du coup, je vais lui mettre 4 et pas 3. Rien pour ça. mais bon, il apporte rien de spécial, quoi.
Ça soit je suis d'accord.
En défense, à la création, il apporte rien. Je veux dire, en termes de qualité de passe, d'écran, rôle ou quoi que ce soit de ce type, il apporte vraiment. Pour moi, c'est un joueur.
Mais complètement, effectivement.
Rien de spécial.
Contrairement aux deux autres remplaçants là dont on a parlé aujourd'hui, que ce soit Drew, alors voilà, c'est irrégulier, mais il y a quand même quelque chose qu'il apporte, ou Bol Bol, comme on l'a dit. Effectivement, lui, c'est vraiment ça son problème. C'est vraiment, je pense, la meilleure définition qu'on puisse donner. Il apporte rien, en fait. Enfin, c'est neutre, mais neutre moins, en fait, quoi. C'est jamais. Enfin, alors, encore une fois, son impact physique sur certaines séquences peut être un plus pour les Suns, mais c'est vraiment très rare et finalement, oui, pas. Enfin, vraiment.
Il n'y a pas de séquence défensive où je l'ai regardé, j'ai dit, waouh, yes.
Ouais, ça, par contre,
c'est. Pris, tu vois.
Et d'ailleurs, moi, pour moi, c'est plus quand je disais sa dimension athlétique peut faire du bien sur certaines séquences, je pensais avant tout à des séquences offensives, parce que c'est vrai qu'effectivement, et c'est peut-être ça le plus gros problème avec lui, vu son physique, c'est pas normal qu'il soit aussi mauvais en défense. Enfin, vraiment, moi, j'ai un petit souci. Enfin, je veux dire, il est constamment dépassé en fait, quoi. Tu vois, sur quand il est en 1-1 notamment, sur les rotations, ça va encore, tu vois. Mais bah voilà, c'est pas. Ouais, non, vrai, bon, il est pas du tout au niveau auquel on l'espère.
Tu vois, j'ai envie de dire, ouais. S'il avait été à des niveaux contractuels similaires à KBD et compagnie, il aurait probablement pu faire partie de la charrette et pas KBD. Tu vois, et le fait qu'il soit 6 millions, il a été gardé. Et
peut-être que ça bloque, oui.
Ouais, notre seul espoir éventuellement d'en tirer quelque chose, c'est qu'une équipe croit encore en son potentiel parce qu'il est encore assez jeune, il a pas mal d'années déjà derrière lui en NBA alors qu'il n'a pas 23 ans, et ça, que c'est ce profil de joueur sur le papier, voilà, wing, forward, les équipes aiment bien ce genre de joueur, voilà, qui fait un peu tout, etc. Mais c'est juste qu'il est bon à pas grand-chose, il n'est pas spécialement plus dans un domaine particulier. Donc je ne sais pas ce qu'on va arriver à en tirer, si on en tire quelque chose d'ici cet été. C'est un des seuls contrats tradables sur lesquels peut-être les Suns pourront arriver à jouer pour essayer de shuffle un peu l'effectif. Mais bon, on va pas discuter de ça, c'est pour l'été prochain. Mais là, tout de suite, sur cette saison, donc, voilà, vraiment un joueur qui m'a... Ouais, puis... À KBD, ces dernières semaines, il commençait, d'ailleurs, je suis pas le seul, il y a plein de fans qui commencent à dire « Ah, KBD, il commence à montrer des petites choses et tout.
Oui, » C'est vrai, il commence à montrer des petites choses, ouais.
Il ça avait, a l'air un peu
gros,
mieux.
Un gros moment très difficile en décembre, bah, comme tout le monde, enfin comme beaucoup de roleplayers en fait. Mais ça allait un peu mieux. Mais de toute façon, d'une manière générale, hein, les roleplayers qui sont partis là dans le trade, alors à part Utah, c'est un cas un peu particulier. Mais en tout cas, que ce soit Metou ou KBD, c'était mieux hein, que ce que fait Little. Hein. Ça, c'est ça. Pour moi, vraiment, ça reste clair. Hein. Donc effectivement, compte tenu des écarts de salaire, ils gagnent presque 3 fois plus que ces mecs-là. Bon, c'est un peu bizarre, quoi.
Il n'a rien montré de plus, quoi.
Il n'a vraiment rien montré de plus, c'est vraiment montré.
On se demandait qui allait être le 5e titulaire, donc ça, on en parlera lors du prochain pod, justement, consacré au backcourt, la belle surprise.
Oui, c'est vrai qu'on avait évoqué son nom, ouais.
Mais tu te rappelles comment les gens évoquaient des noms les gens évoquaient soit KBD, soit Okogie, hop, Nasir Little. Personne ne parlait vraiment. Toi, t'en parlais un peu. Tu disais.
Ah, si, on en avait parlé un peu. Alors, effectivement, ouais, surtout moi, et j'avoue, je bats ma coulpe. Hein, c'est moi le tocard, le tocard principal sur le dossier d'Acer Little. Mais, non pas que je crois encore en lui, mais par contre, effectivement, je suis peut-être moins sévère que toi avec son début de saison. On va juste finir par parler, parce qu'effectivement, là, ça fait. Ouais, on a dépassé l'heure d'émission, alors qu'on s'était dit qu'on ferait court. Mais c'était intéressant. Mais on va peut-être finir en forme de conclusion un peu sur les nouvelles recrues. Alors pour Roddy, si tu permets, on le garde pour l'émission de demain parce que ce sera peut-être une petite introduction. J'avais deux trois petits mots de l'ami Tom Feller de Dunk Hebdo. Donc ça, je vous le tease et je vous le donnerai la prochaine fois. Roddy, de toute façon, pour l'instant, a très peu joué, donc c'est assez difficile d'en dire quelque chose. De toute façon, a priori, de par son expérience bien moindre que les deux autres joueurs qu'on a recrutés, donc Royce O'Neill et Thad Young, ils devraient être moins impliqués là dans les semaines à venir. Alors on va parler peut-être vite fait, toi tu vas me donner ton sentiment sur ces deux arrivées-là, Royce O'Neill et Thad Young. O'Neill qu'on a déjà vu jouer là 3 matchs avec le Mayo des Suns, qui a déjà beaucoup apporté en fait, vraiment, il a été bon hein, contre Sacramento, il a été excellent même, on peut le dire. Donc vraiment, voilà, il y a des belles promesses autour de ce joueur-là. Thad Young, c'est peut-être un peu plus théorique, ne serait-ce que pour l'instant il n'a pas joué, mais même son niveau physique interroge. Toi, qu'est-ce que tu penses de ces arrivées? Ça permet d'avoir un peu plus de consistance, ouais, vraiment, c'est ça en fait le bon terme, de consistance sur ce front de courte, de recruter ces deux joueurs expérimentés, O'Neill et Thad Young.
Ah bah déjà, O'Neill, trois premiers matchs kiffants de sa part, dès le premier match à Golden State. Il a montré que il n'était pas là pour rien sur des séquences défensives, quelques shoots bien pris, donc il fait un beau début de saison complet. Je veux dire, il apporte du rebond, la passe, la défense, un peu de points, du leadership. Ça a l'air d'être un bon gars, top, super content qu'on ait récupéré Royce O'Neill, qui a l'air de dès le départ très bien se fondre au moule Suns avec les KD, les Booker et compagnie. Donc, je pense pour ma part super recrue, c'était lui que je voulais. Donc quand j'ai appris qu'on le prenait, j'étais super content. C'est ce qu'on pouvait espérer de mieux, je pense. Donc bravo James Jones et Ijuia de faire l'effort financier, parce que O'Neill, en termes de salaire, ça matchait quasiment avec les 4 salaires minimum qu'on a envoyé en retour, mais malgré tout, c'est un peu plus cher. Et je crois que la tax bill, c'est-à-dire la facture taxe, si je dis pas de bêtises, elle est de 5 millions ou un truc. Je crois que le différentiel de salaire dans le transfert plus la tax bill, la différence de tax bill, ça représente 13 millions. Donc ça veut dire que Matt Ishbia fait un effort financier de 13 millions pour que ça se fasse. Tant mieux, pour Matt Ishbia, c'est une crotte de nez, 13 millions, mais quand même. Faut louer l'intention et le fait d'y aller, de le faire, parce que tous les propriétaires l'auraient pas fait, certainement pas Sarver en tout cas. Donc non, génial, vraiment séduit dès les 3 premiers matchs, et je pense que c'est fait pour durer. C'est un mec qui connaît le basket, qui a joué dans des bons clubs, qui ont bien performé, Utah, ensuite Brooklyn et les Suns. Je sais pas si je loupe un club ou pas au passage. Mais en tout cas, il a su bien jouer dans des bons clubs. Ça, c'est bon signe. Il a plusieurs dizaines de matchs de playoff à son actif, ce qui est bien. C'est-à-dire que voilà, c'est pas un mec qui va arriver en mode rookie qui comprend pas trop ce qui se passe quand les matchs vont devenir à haute intensité. Donc voilà. Moi, pour ma part, je sais pas si on met une note sur trois matchs à Roy Sonny, ouais, mais
c'est un peu short. Moi, j'ai mis non noté.
Mais non noté, mais le ressenti très bon. Et voilà, moi, je suis très content parce que c'est lui que je voulais. Voilà. Je sais pas ce que toi t'en penses.
Je suis complètement d'accord. Ouais. Complètement d'accord. Effectivement, on en avait parlé dans le dernier podcast. On croisait les doigts très fort pour recruter Rolson Hill avant la trade deadline. C'est ce qui a été fait. Donc, effectivement, au prix d'un move, ouais, donc comme tu le dis, un move finalement à trois équipes. On récupère deux joueurs. Donc, on a aussi récupéré David Roddy, dont on parlera un petit peu plus dans la prochaine émission. Même si c'est un forum, mais bon, c'est un cas un peu particulier. Bref, donc Royce O'Neill, effectivement, c'était la grosse pièce de ce trade. Et effectivement, moi, j'ai vraiment le sentiment, c'est un joueur qui rassure déjà là. Effectivement, tu l'as dit, hein, sur les trois premiers matchs, il a déjà beaucoup rassuré. Et j'ai le sentiment qu'il peut être ce septième joueur solide, alignable en playoff, en fait, tout simplement. Voilà, je vous bassine avec ça, chers auditeurs, mais aussi mes amis de Valley Hoop et du FC Soleil plus généralement, depuis le début de la saison. Moi, j'attends de voir dans l'effectif des Suns, là, dans ce qui a été recruté par James Jones, j'attendais de voir des joueurs alignés en playoff. En faisant les comptes, là, il y a quelques jours, on n'en était qu'à 6, en vérité. En comptant Eric Gordon, notre sixième homme, parce que pour moi, encore une fois, Ball, il n'y a aucune certitude, malgré les choses bien qu'il fait sur le terrain, et tous les autres players, on l'a dit, à maintes reprises, il y avait des incertitudes et même des gros doutes, quoi. Donc du coup, voir arriver Royce O'Neill, pour moi, je suis ultra soulagé. Pour moi, c'est un move qui pourrait être vraiment déterminant pour nous. Alors évidemment, voilà, on va pas s'avancer et tout machin, ou même laisser entendre que c'est Royce O'Neill qui va nous mener au titre. C'est pas du tout ça l'idée. Mais l'idée, c'est de dire, on a besoin d'avoir cette espèce de mini profondeur. Hein. C'est vraiment une profondeur dans la rotation de playoff. Et pour moi, ce joueur-là, c'est vraiment typiquement ce qu'il nous fallait. Ce qui monte sur le terrain, voilà, et vraiment, je l'aime déjà. C'est déjà quasiment mon joueur préféré de l'effectif là, sur les quelques bouts de match. J'ai donc pas encore vu le match contre Détroit, mais donc sur les bouts de match contre les Warriors que j'ai vu et celui des Kings que j'ai vu en entier, franchement, il est kiffant, quoi. Il donne envie, vraiment. C'est le type de joueur, voilà, un peu qu'on a eu avant à la Torrey Craig ou ce type de gars là qui fait un peu tout sur le terrain, qui a un bon esprit, qui voilà, qui est vraiment. Comme tu dis, un glue guy, quoi, mais aussi parce que il a le niveau tout simplement pour l'être. Et vraiment, moi, je suis très très enthousiaste sur l'arrivée de Royce O'Neill. Voilà, je vais essayer de pas trop m'enflammer non plus parce que voilà, on verra bien sur la
durée. Il y a de quoi
parce qu'on est content, voilà, de recruter. Enfin, tu vois, je te dis, c'est ce qui manquait, hein, dans notre effectif, des joueurs confirmés. On avait eu cette discussion en début de saison. Alors, pour le coup, autant je me suis planté sur Little, mais je pense avoir eu raison quand même sur le fait de calmer un peu les ardeurs. On a fait un super recrutement cet été, parce qu'effectivement, de fait, il y avait des joueurs qui avaient des bons... sur le papier, qui avaient des bons antécédents, mais qui avaient peu... Enfin, c'était pas des joueurs confirmés, en fait. Moi, c'est vraiment mon point que j'avais donné en début de saison. Il y avait aucun joueur confirmé dans les mecs qu'on avait recrutés, à part Nurkić, et on l'a vu qu'effectivement, là, ça joue.
Aucun
des joueurs qui n'étaient pas confirmés, aucun des joueurs qui n'étaient pas confirmés ont vraiment réussi à passer ce step-là. Ça devient d'autant plus important d'avoir un Royce O'Neill, enfin d'avoir un joueur confirmé, voilà, dont on sait ce qu'il va apporter sur le terrain, et du coup, l'avoir dans notre effectif, c'est très bien.
Je rajoute juste qu'aucun des joueurs qu'on a recruté cette intersaison n'a fait ne serait-ce que trois matchs d'affilée, comme Royce O'Neill vient de faire. Juste ça.
Ouais, tout simplement.
Tu vois,
simplement.
Aucun de KBD, de machin, ils ont eu que leur séquence
les
uns
les autres.
Parfois un deuxième, et puis hop, ça redescendait, et puis après, là, trois matchs, trois premiers matchs. Hier, il a plus 37 de plus-minus, l'ami Royce O'Neill,
dans absolument une victoire de
16 points contre les Pistons, ça veut dire que les 24 ou 25 minutes qu'il n'a pas joué, j'ai pas vu le match encore, je vais le regarder. Ça veut dire qu'on est à moins 21.
On prend un bouillon.
voilà. C'est quand même assez ouf. C'est en gros la différence qu'à lui seul il a dû faire sur le terrain. À mon avis, c'est très notable en regardant le match et je vais en avoir la confirmation très bientôt. Donc, belle recrue. On fait un petit topo
sur Tadjung.
Parce que j'ai bien
Juste pour dire que c'est. Ouais, juste pour dire que, alors, je vais te laisser parler, effectivement. Moi, bah, de toute façon, on va faire vite, donc je vais pas donner mon avis, tout simplement parce que pour l'instant, c'est pas officiel. Donc voilà, donc on va, enfin voilà, effectivement, je te laisse en parler, parce que pour le coup, on est
Ah, c'est
suffisamment
officiel.
avancé dans la discussion. Alors, j'ai cherché là juste à l'instant, on est resté au stade des tweets de Vosges. Alors, les tweets de Vosges ont presque valeur
Bah
d'officialité,
ouais.
mais pour l'instant, c'est toujours pas annoncé par la scène, c'est ça que je veux dire en fait, quoi. Donc, effectivement,
Ouais.
on verra. Je pense que on peut partir du principe qu'il sera là, hein. C'est pas la question, c'est plus pour me permettre
Ouais.
de pas me mouiller. Mais vas-y, qu'as-tu à dire sur Tadion?
Ouais.
Peut-il être justement le huitième joueur de cette rotation playoff, tout simplement, quoi?
Oui, moi je
C'est la
pense que
question.
oui, déjà, ça c'est pour répondre directement à ta question, je pense que oui. Donc moi je serais très content qu'on le prenne, je pense que ça va se faire. C'est un joueur que j'ai voulu dans l'effectif depuis les années Bledsoe, Dragic et compagnie. Alors, il n'a jamais été un shooter à 3 points, et donc bah, a priori il ne le sera jamais. Il a 36 ans cette année. Et je crois, j'ai regardé ses stats récemment à Toronto sur un temps de jeu limité, mais il tournait à 16% à 3 points. C'est pas un shooter à 3 points. Il n'apportera jamais du 3 points et c'est pas son jeu. Donc par contre, c'est un undersize de big en gros, puisque il est catégorisé comme pivot à Toronto. C'est que c'est là qu'il a dû jouer la grosse majorité de ses minutes. C'est pas un joueur très grand, hein. Thady Young, c'est un 6'8", donc il fait 2m3 quoi en gros. Donc clairement, il n'est pas en taille ni en gros muscle, mais bon, c'est quand même un beau petit bébé. Mais par contre, en intelligence de jeu et en capacité à voilà, faire preuve d'intelligence et d'esprit d'équipe, j'ai envie de dire, hein, d'être un petit connecteur aussi à sa façon, je pense qu'il peut être très 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 bon dans ce rôle, en small ball 5 ou en 4. Et moi, perso, un, je pense qu'on va le prendre, et deux, je pense qu'il va prendre la place d'ici les playoffs à Drew Eubanks. Dans cette rotation de playoffs, moi je vois bien en fait les 7 que tu as cités, donc le 5 titulaire bien sûr, Royce O'Neal, dans cet ordre-là hein, de rotation, Royce O'Neal, Eric Gordon et Thady Young, je pense que ça va jouer comme ça. Et si c'est pas Thady Young, parce qu'il n'aura pas réussi à prouver que voilà, il est capable de rester sur le terrain déjà, premièrement, de ne pas se blesser, et puis d'être capable déjà de jouer les matchs, ou qu'il déçoit pour une raison ou une autre, dans ce cas-là, à voir qui. De Ubex ou de Bol Bol arrivera à gratter un petit peu cette huitième place, parce qu'on sait que les playoffs, en gros, les rotations, c'est plutôt du 8 deep. Voilà, 8, c'est vraiment le chiffre clé à atteindre pour avoir une
Bah ouais,
rotation de
si on
playoffs
prend
qui tient la route.
les derniers exemples, Denver l'année dernière, c'est effectivement 8 joueurs sur la rotation, hein, avec Brown et Jeff Green en sortie de banc. Donc ouais, non, effectivement, 8, c'est le bon chiffre.
8, c'est le bon chiffre, et puis du coup, ça serait pas mal parce que tu as Eric Gordon. D'ailleurs, petite précision, Eric Gordon, parce qu'il y en a qui m'ont parlé, je déteste pas. Hein, je déteste pas, il a quand même des choses
Garde-le
qui.
pour demain, Eric Gordon.
Ouais, je le garde pour demain. Ouais, allez, je garde pour demain. Mais non, je trouve ça pas dégueulasse du tout d'avoir Eric Gordon au poste 1-2, l'ami Royce O'Neal au poste 3-4, et puis un Thady Young qui apporterait.
Il peut faire 4-5, quoi.
Qui peut faire 4-5. Et du coup, ça te fait une. Ça ressemble d'ailleurs à la rotation de Denver en sortie de banc l'année
Ouais,
dernière.
sur le papier, c'est vraiment ça, hein, effectivement, parce que
Ça y
Green jouait
ressemble,
pivot backup, hein, donc oui, tout à fait.
hein.
Donc non, vraiment. Bah écoute, on va clore l'émission là-dessus, parce qu'il faut que je close l'émission au point où j'en suis. Voilà, donc on se retrouve de toute façon très bientôt pour la deuxième partie de ce grand bilan là des deux tiers de saison. T'as raison, c'est peut-être ça le bon milestone, on va dire. Voilà, merci Hicham pour cette première partie. On se retrouve très bientôt donc pour la deuxième. Et donc
Merci
nos
à
auditeurs.
toi.
On les laisse un peu en
Je serai moins
suspens.
long demain. Hein. Je serai moins long demain. Promis.
Non, j'ai été long aussi, on avait beaucoup de choses à dire. Et enfin, notamment sur Nurkic, c'était important d'aller vraiment dans le fond des choses. Allez, et bah, écoutez, messieurs, dames, nos chers auditeurs, on se retrouve très bientôt pour le prochain numéro de Valley Hoops, qui sera donc la suite de ce podcast. À bientôt!
Bye bye.
See the shots that I took, wet like I'm booked.
Raising up, deep three on the way.
Oh,
Durant geez. Goes, boom!
That is just, oh.
Sun came out, I went about to drop top.